invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Grégoire.
À vos côtés, Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Et Florian Hielpo qui complète ce trio, responsable macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver dans cette première semaine de rentrée pour Smart Bourse et pour les marchés, avec un mouvement que tout le monde regarde, le mouvement des taux longs notamment, hein, effectivement, qui se réapprécie fortement depuis quelques semaines maintenant. On avait eu un petit répit, je me souviens, fin novembre, après la nomination d'un Scott Bessent, par exemple, au Trésor américain. Ça a dû durer quelques jours, deux semaines au mieux, avant de repartir de plus belle. Le 10 ans américain a repris sur la séquence du mois écoulé 50 points de base, à plus de 4,70%, c'est ce qu'on a vu hier. Florian, le mouvement est assez global. Qu'est-ce qui explique là cette nouvelle patte de hausse des rendements obligataires souverains?
Alors, c'est difficile de mettre le doigt sur un facteur unique, je pense. Il y a deux facteurs qui nous viennent en tête, en tout cas dans nos discussions, dans le cadre de nos comités d'investissement. Le premier de ces facteurs, c'est peut-être une forme de frustration vis-à-vis de la politique de la Fed. On est en train de se rendre compte probablement qu'il y a un peu plus d'inflation que prévu initialement, que l'inflation est un peu plus collante, un peu plus visqueuse, comme on dit, que prévu. Et quelque part, cette remontée des taux s'effectuant au travers de la progression des taux réels et non pas au travers de la prime inflation, on aurait l'impression que les marchés tentent simplement de faire de la politique monétaire à la place de la Fed. Aussi simplement que ça, parce que des taux courts à 5,5, ça a un effet sur le système interbancaire, c'est censé faire monter les taux, mais bon, les taux courts ont baissé. Par contre, des taux réels à 2,15, 2,25, 2,50, selon comment on les mesure aux États-Unis, ça, c'est une variable qui va avoir une incidence macro sur le cycle, sur la conjoncture, qui peut être plus forte, plus marquée. L'investissement aux États-Unis, il n'est pas très fort depuis 3 ans, il faut être assez clair de ce côté-là. Alors ça, c'est le premier facteur à notre sens, c'est qu'il y a une frustration et une tentative de prendre la main, simplement, sur la politique monétaire. Le deuxième élément, c'est des problématiques de dette. On a encore des déficits rampants aux États-Unis qui sont monstrueux. Je sais qu'en France, on parle beaucoup de déficit public, mais il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour se rassurer. On est sur un doublé à 6% sur 2 ans, et là, ce que projette le FMI, c'est 5% de déficit primaire. C'est proprement monstrueux. Enfin, c'est ce qu'on pourrait utiliser en période de récession, sauf qu'il n'y a pas de récession. Il n'y a pas visiblement de tentative de reprendre la main. Là encore, on a l'impression que le marché tente de reprendre la main aussi sur la politique fiscale. Quelque part, on a l'impression que le marché reprend la main sur le policy mix dans son ensemble, à la fois fiscal et monétaire, et c'est ce qui justifie potentiellement ces remontées de taux. On est mal à l'aise globalement vis-à-vis de la situation, à la fois en termes d'inflation et à la fois en termes de fiscalité.
D'accord.
Et le marché corrige.
J'aime bien l'idée, le marché reprend la main, c'est l'idée de la patrouille obligataire, quoi. C'est-à-dire on se montre vigilant par rapport peut-être à la première baisse de taux de 50 points de base de la Fed en septembre, hein. Sans parler d'erreur de politique monétaire, mais peut-être un doute sur le bien fondé finalement de cette approche il y a quelques mois. Et puis sur la partie budgétaire, il est temps aussi de mettre un prix sur la signature ou le risque de signature peut-être de certains États, quoi.
C'est un exercice qui est très difficile. C'est très difficile de mettre un prix justement sur la signature américaine. Là où on peut se dire que c'est plutôt l'inflation qui domine la partie dette, c'est parce que le dollar se renchérit. C'est le contraire en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on a vraiment...
Là, c'est vraiment la signature.
Voilà, quelque chose de très marqué du côté fiscal, à notre sens. Pour le moment, nos estimations, c'est la trajectoire sur laquelle les US semblent s'orienter nécessite à peu près 70 pardon, à 80 points de base de taux réel en trop, quoi. Une prime de 80 points de base de taux réel, et c'est ce qu'on a pricé plus ou moins au-delà du pivot des 1,50. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit la situation. Simplement, gardons en tête que ces taux réels aussi élevés, c'est la plus mauvaise nouvelle macro qu'on puisse avoir dans l'environnement.
C'est ce qui freine l'économie, quoi.
C'est ce qui devrait freiner l'économie, parce que ça a une incidence directe sur l'investissement, et on connaît bien les canaux de transmission de la politique monétaire.
Michel, le regard d'un économiste justement sur ces mouvements de taux, sur cette séquence-là.
Alors, quand on regarde cette évolution des taux longs depuis un mois, là, vous le mentionniez, environ 50 points de base de hausse des taux, comme vous le disiez, elle est globale, à part peut-être le Japon et la Chine, c'est les ordres de grandeur qu'on retrouve sur tous les marchés. Et après, quand on regarde dans le détail d'où ça vient essentiellement de la hausse des taux neutres. Autrement dit, les taux anticipés, donc 5 ans, 10 ans, quand il n'y aura plus de cycle économique, le taux où les banques centrales s'arrêteront.
Ce qu'on considère être les taux d'équilibre.
Les taux d'équilibre. Et quasiment 100% de la hausse des taux longs est expliquée par ça.
D'accord.
Alors, ça correspond à peu près à ce qui a été dit. C'est le taux neutre, hein, celui qui fait que la politique monétaire pèse ou ne pèse pas sur l'économie et qui permet d'arriver à 2% d'inflation partout, il a remonté en un mois d'environ 50 points de base. Mmh. Et donc ça révèle peut-être, deux choses. Ça révèle des inquiétudes nouvelles sur l'inflation à long terme, à moyen et long terme. On voit que les anticipations d'inflation ont remonté aussi. Et ça révèle aussi, finalement, une prise de conscience de la résistance des économies avancées. Il faut, pour le moment, que la politique monétaire ou la politique budgétaire soit plus dure pour que les marchés du travail s'assouplissent plus et que les pressions inflationnistes domestiques se résorbent. Pourquoi ça a augmenté de 50 points de base en un mois, alors que finalement, quand on regarde les données macroéconomiques...
Et comme vous dites, partout. Pas juste aux États-Unis.
Voilà, partout. Elles n'ont pas bougé significativement. Il n'y a pas eu en un mois de nouvelles données macroéconomiques qui font dire « Ah, il faudrait des taux de 50 points de base plus élevés qu'auparavant ». C'est juste qu'on ne sait pas où sont vraiment les taux neutres. On a vécu pendant plus de 10 ans avant la pandémie, presque 10 ans entre la grande crise financière et puis après la pandémie, avec l'idée que les taux d'équilibre devaient être très faible, et pour la zone euro, quasiment à zéro.
Croissance potentielle quasi nulle, quoi. C'est un peu ce qu'on attendait.
Voilà. Et alors, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un nouveau régime. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments macroéconomiques pour dire qu'on est dans un nouveau régime et que ce ne seront pas des taux aussi bas qu'auparavant. À quel niveau ils doivent être, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, après, les marchés sont très volatiles, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de fondamental depuis un mois qui puisse expliquer ce repricing.
Donc c'est un tâtonnement de marché, voilà. Pour vous, c'est ça.
Les banques centrales sont un processus de baisse des taux, qui est permis par la désinflation, qui a été réel. Hein. Maintenant, on a des taux d'inflation en zone euro à 2,4. Aux États-Unis, on est à moins de 3. On était beaucoup plus élevé auparavant. Ça devrait continuer encore. La question, c'est, encore une fois, c'est jusqu'où il va falloir s'arrêter pour qu'on vienne durablement sur 2%. Et ça, c'est un processus de découverte par apprentissage, hein, learning par blooming, by doing. Les banques centrales vont baisser les taux. Et on le saura. Mais voilà, les marchés tâtonnent aussi.
Ouais. Pierre, comment vous regardez ce mouvement ? Et puis, c'est vrai que là, on parle du mouvement qu'on voit depuis début décembre, mais si on remonte à la première baisse de taux de la Fed, mi-septembre, de 50 points de base, depuis ce moment-là, les taux longs n'ont cessé de remonter. Et là, c'est 100 points de base qu'on a repris depuis mi-septembre sur du 10 ans américain, par exemple.
Alors moi, je vais peut-être être moins intelligent que tout le monde.
En fait, je... Laissez-nous juger.
Non, mais je trouve ça extrêmement plaisant de revenir à des courbes de taux qu'on comprend. Parce que j'avoue que les courbes de taux complètement inversées, où on craint des récessions fantômes qui n'arrivent jamais, c'était quand même une vraie énigme. Et moi, honnêtement, j'étais pas très très à l'aise avec des courbes de taux comme ça. Donc là, maintenant que les courbes de taux sont enfin repentifiées et affichent des pentes positives, même entre le 10 ans et le 3 mois,
ouais.
Franchement, je retrouve un monde dans lequel...
Vous comprenez.
C'est beaucoup plus... Je suis beaucoup plus
j'entends.
À l'aise. Et donc, de manière totalement moins intelligente, je me dis que on est nombreux à penser comme ça et qu'une courbe des taux, c'est forcément pendu quand il n'y a pas de récession. Et donc, qu'on ait un bear steepening...
C'est ça, parce que là on parle bien d'une repentification par la hausse des taux longs.
Hausse des taux longs,
c'est ça.
Des taux courts, donc on a.
Parce qu'on voit ces mouvements de pentification généralement au moment du déclenchement d'une récession, mais parce que les taux courts se mettent à baisser violemment.
On a quand même attendu 3 ans ou 2 ans une récession qui est venue. Le marché était complètement neurasthénique, et puis finalement il a suffi de l'élection de Donald Trump. Pour se dire, là, on a un président qui est hyper pro-croissance, parce que la dernière fois, il nous a mis du charbon sur du nucléaire, et donc on a eu une croissance américaine complètement folle. Et donc, on dirait que tout le monde a revu ses objectifs de croissance, ses objectifs de déficit, et on revient finalement dans un monde qu'on comprend beaucoup mieux, et effectivement, les taux courts sont plus bas que les taux longs, et curieusement, tout le monde occidental réagit de la même manière. Il nous reste encore l'Allemagne. Alors la Suisse, je ne sais pas où est le taux court en Suisse, mais il doit être vraiment très bas.
Proche de zéro déjà ?
0,5, donc on est même la courbe suisse s'est repentifiée, on est presque plat désormais.
On a quoi, 1,20 sur le 10 ans suisse à peu près ?
À peu près,
ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, donc on est pontifié. Enfin, tout le monde occidental est repentifié, et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc ça veut dire que le marché, en gros, n'est plus neurasthénique, plus personne ne price une récession qu'on n'a pas vue. Même en Europe, on arrive à avoir un semblant de croissance, même si elle est moribonde, et on en parlera sur les attentes économiques. Honnêtement, moi, il me semble que le janvier 2025, c'est janvier 2023. En Europe, tout le monde est au bout de sa vie et proche de se pendre. Et aux États-Unis, finalement, il n'y a pas eu de récession.
Et ça nous dit quoi de comment les choses peuvent se développer au cours de 2025, là, partant d'un pessimisme exacerbé sur l'Europe et d'un optimisme généralisé sur la croissance américaine? En tant qu'investisseur et gestionnaire, qu'est-ce que ça inspire ?
Ce que ça m'inspire, c'est que on a une inflation qui est globalement plutôt contrôlée, parce qu'on voit bien que la BCE n'a pas fini son cycle de baisse des taux, et la Fed n'a pas entamé un cycle de remontée des taux. Alors oui, je sais, moi j'adore les dynamiques. Hein. Donc on a eu un changement de discours de Jérôme Powell, mais on n'a pas eu le contre-pivot du pivot.
Non.
Et donc on est toujours dans un cycle où on a des taux qui sont assez sous contrôle, la visibilité est en réalité très forte. On sait que la BCE va baisser. On sait que la Fed va pas monter. Elle va probablement baisser. Voilà.
Donc ça, au moins pour quelques mois, trimestres peut-être, on a quand même un guide assez clair.
Oui, c'est quand même vraiment extrêmement, extrêmement agréable. Donc là, moi, je retrouve, j'espère que je ne me tromperai pas, mais un environnement très janvier 2023 où en fait, on a vraiment une Europe neurasthénique, des attentes extrêmement basses, hein, vraiment, donc des problèmes. Alors en plus, on a des problèmes politiques, mais on sait tous très bien que finalement, la politique allemande ou la politique française, oui, on peut se gargariser sur « Ah, on emprunte plus cher que les Grecs ». Mais bon, on n'est pas en 2010,
oui.
On n'est pas à 35%, non. Donc on est à 3,40. Oui. C'est pas bon, hein. C'est pas super. Mais en même temps, c'est bien que le marché obligataire fasse son boulot et dise « Bah là, il faudrait peut-être arrêter de jouer avec les finances publiques ». Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on n'a pas, même en ayant un frein sur les finances publiques, on n'a pas du tout de marché qui price des récessions. On voit que l'Allemagne, le taux remonte, le taux de 10 ans remonte, il y a une prime de risque qui arrive, et on se repentifie, et c'est plutôt extrêmement agréable d'évoluer dans un monde obligataire qu'on comprend beaucoup mieux dans ce sens-là.
Je vous fais réagir sur l'Europe, bien sûr, Michel, là, sur la croissance européenne qu'on entrevoit pour 2025. Alors, le consensus est positionné entre 0,5 et 1%, c'est ça, peut-être ?
0,9,
précisément, pour le consensus moyen. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière 0,9 et quels vont être les moteurs, ou qu'est-ce qui va façonner cette croissance en zone euro pour cette année, selon vous, Michel?
Alors, je dirais déjà 0,9, c'est déjà mieux que les deux dernières années, même en séquentiel, d'ailleurs même les trois dernières années, 2022, 2023, 2024. Donc ça, c'est intéressant, parce que vous mentionniez le pessimisme ambiant, mais le consensus des économiques, c'est une croissance légèrement supérieure en 2025 que les deux ou trois dernières années. Mmh. Et la raison, c'est le rebond de la consommation. Tout le monde prévoit un rebond de la consommation, et donc les plus optimistes au-dessus de 0,9 se disent qu'il y aura du pouvoir d'achat, et en plus, il y aura une des épargnes. Et les moins optimistes disent, bon, il n'y aura peut-être pas de désépargne. On sait qu'en Europe, la raison de la faiblesse de la consommation ces deux dernières années, ça a été un taux d'épargne extrêmement élevé, 3,5 au-dessus des moyennes pré-pandémiques. Donc, mais je crois qu'il n'y a pas d'équipe d'économistes qui entrevoit que la consommation reste morose. Ouais. Et la raison pour ça, c'est que c'est la désinflation qui permet des hausses de pouvoir d'achat. Le revenu disponible en Europe, il augmente de 2,5% en 2024 et probablement 1,5% en 2025. La raison est assez simple, hein, si vous avez une inflation à 2, autour de 2, on va dire, et des salaires, ils sont à 4 et des poussières, même s'ils descendent à 3, il y a du pouvoir d'achat. Et donc, pour que la consommation reste plate, ce qu'elle a été ces dernières années, il faudrait que le taux d'épargne, qui est déjà stratosphérique, devienne super stratosphérique. Ouais. Et donc ça, c'est pas impossible. Hein,
face à l'incertitude, face au avec le traumatisme de l'inflation, qu'une génération n'a jamais connue, qui peut marquer les esprits pendant longtemps, Michel.
Peut-être. Alors, c'est pas impossible. Peut-être que toutes les équipes d'économie se trompent et que le taux d'épargne deviendra super, super stratosphérique. Ouais. Mais quand on analyse les mesures d'incertitude, il y a pas mal d'indicateurs, ils sont déjà super, super stratosphériques. Ouais. Donc, c'est difficile de les imaginer pire encore. Ouais. On prend le cas de la France. On a rarement connu autour d'incertitudes économiques, fiscales. Pareil en Allemagne. C'est difficile, c'est difficile de voir pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Sans parler de la géopolitique. C'est ça l'idée. La consommation va rebondir. Et je pense que ce rebond de la consommation, il a déjà commencé.
Tesco nous le dit, Marks & Spencer nous le dit, Michel-Édouard Leclerc nous le dit.
Je viens d'écrire un papier cet après-midi sur le sujet.
Génial.
La consommation, alors, comme je disais, elle était à zéro pendant deux ans. Au troisième trimestre, en zone euro, elle a fait plus 0,7 sur un trimestre. Ouais. Et là, on a des données sur le quatrième trimestre, les ventes au détail, on a les ventes de voitures, on a aussi un peu des choses sur la consommation d'énergie. Alors, c'est lié au temps, à la météo. Et on va probablement rester sur le même taux de croissance. D'accord. Et donc, vous voyez, vous allez faire en deux trimestres 3 ou 4 années de consommation en volume.
Oui, de ce qu'on n'a pas fait, effectivement, ces 3-4 dernières années.
3 années de consommation en volume. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir ce pessimisme ambiant mentionné et de le confronter à la réalité économique qui est pour un moment moins morose, la réalité. Alors, on va avoir on pourrait dire la même chose de la production industrielle.
Le chiffre allemand est plutôt bon aujourd'hui sur la production industrielle. Les chiffres allemands sont généralement toujours révisés à la hausse et le chiffre de la production industrielle du mois précédent en Allemagne a aussi été révisé.
C'est pareil, le consensus en Allemagne est à 0,6 après deux années de croissance à zéro.
Donc il y a quand même un socle là autour de la consommation et même pourquoi pas de la production qui est quelque chose qui apparaît solide quand même pour la zone euro en 2020.
Oui, mais donc vous mentionnez le fait qu'il y a que les risques de récession dans les pays avancés sont tels quand on les regarde à l'aune des marchés obligataires avec des courbes des taux qui sont pentues, ces récessions n'existent pas. Mais quand on regarde la situation macroéconomique, les fondamentaux, la situation financière des agents privés, ménages et entreprises. Dans les pays avancés, elle est aussi extrêmement bonne. Donc c'est pas eux qui vont tirer, qui vont dire j'arrête tout de suite. Ouais. Et donc il faut un catalyseur. Ça peut être les coupables classiques, la géopolitique ou les finances publiques. Mais quand on parle de finances publiques, on voit bien que c'est la mode, l'envie, c'est pas de
c'est pas la consolidation.
Voilà.
Non, oui, on est d'accord. Ou alors vraiment à petits pas. Non, on nous dit moins de 5% de déficit en France cette année, ce serait un danger. Donc, Florian, sur cette idée, effectivement, cet optimisme sur la croissance américaine, ce pessimisme peut-être, en tout cas cette ambiance pessimiste autour de l'Europe, comment ça peut se traduire en termes de dynamique de marché? Ça fait alors au moins deux ans et beaucoup plus que les marchés américains, actions, surperforment l'Europe et le reste du monde. Est-ce que ça reste un schéma valable pour 2025? Est-ce qu'il faut imaginer des dynamiques qui pourraient changer de ce point de vue-là?
Pour continuer en filigrane de ce qui vient d'être dit, il faut aussi comprendre d'où est-ce qu'on vient. Parce que les courbes des taux étaient inversées et c'est loin d'être une idée bête. Moi, ça m'interroge, ça m'a beaucoup interrogé également. Et on nous a dit, mais parce qu'en fait, l'économie va bien, c'est juste l'Europe et la Chine qui vont mal. C'était un petit peu un des messages dominants des deux dernières années. La vérité, c'est que je me suis penché récemment, sur les rapports du FMI. Et ce que leur outlook montre, simplement, c'est que ça fait deux années consécutives qu'on a eu une détérioration des conditions économiques dans 80% des pays de la planète. Et il y a juste une minorité de pays qui s'en sont en fait bien sortis. Mmh. Et parmi cette minorité, essentiellement les États-Unis. qui sont en fait juste une espèce d'îlot où il n'y a pas eu de ralentissement en dépit d'une courbe des taux inversée. Par contre, la situation européenne, elle s'est effectivement détériorée pendant 2 ans. La situation chinoise s'est effectivement détériorée pendant 2 ans. Et la situation d'une majorité de pays s'est détériorée. Aujourd'hui, ce qu'on observe...
C'est ça, l'exceptionnalisme américain. Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, on a le contraire. Ce qu'on a, et je suis très aligné avec le rapport justement de l'IMF, du FMI, c'est qu'aujourd'hui, on a le contraire qui est en train de se produire. C'est que le FMI attend qu'une majorité de pays développés voient une reprise économique, au nombre desquels un grand nombre de pays européens. Et là-dessus, nous, on est vraiment alignés. Et on pourrait être face à une forme de reprise nominale, c'est-à-dire qu'on a un peu d'inflation et un peu plus de croissance que prévu, alors qu'on n'a pas eu de récession. Bon, c'est pas qu'on n'a pas eu de récession, c'est qu'on a eu un ralentissement qui se mesure dans des chiffres clairs, tels que calculés par le FMI. On sort de cette mauvaise passe, c'est en train de s'améliorer. Il y a un endroit où on voit difficilement une amélioration, c'est les États-Unis. S'il y a un endroit sur Terre où il va être difficile de voir une amélioration...
De faire encore mieux ?
Oui, c'est les États-Unis. À moins qu'il y ait encore un nouveau dérapage et qu'on n'ait pas 5% ou 4% de déficit primaire, mais qu'on ait encore 6, 7, 8. Et je serais intéressé à voir la réaction des marchés dans ce cas-là. Donc, sur le plan macro, l'anomalie est en train de s'inverser. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir une majorité de pays qui vont mieux.
Et donc, il y a une reconvergence qui va se faire.
Il y a une reconvergence.
D'accord.
En fait, il n'y a jamais eu de déconvergence. Simplement, on ne regarde jamais le gros du groupe. On regarde toujours le meilleur élève de la classe. Oui. Et le meilleur élève, jusqu'à présent, c'était les États-Unis. Oui. Alors, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça en termes d'investissement?
Oui.
Sur les actions, c'est quand même difficile. Ce que les large cap américaines proposent, c'est de la croissance, de la qualité. C'est des styles qu'on aime bien avoir dans nos portefeuilles. Maintenant, quand on regarde l'Europe, quand on regarde la Chine, on va trouver des boîtes qui font aussi de la croissance, qui font aussi de la qualité et qui traitent à des prix, à des PE qui sont vraiment très très différents. Comparer la technologie en Chine avec la technologie aux États-Unis, il y a un edge sans H des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une avancée, il y a un avantage compétitif des deux côtés, mais ça ne traite pas au même prix. Bref, tout ça pour dire, cette année, notre scénario macro, c'est de dire reprise nominale. Et ce qui va avec reprise nominale, c'est un étalement des performances, c'est-à-dire des performances plus homogènes. On aime bien le high yield, on aime bien les obligations émergentes, on aime bien les actions émergentes, on aime bien en fait tout ce qui n'est pas les actions développées et tout ce qui n'est pas les États-Unis. C'est là où on a envie d'aller grappiller un petit peu d'upside pour l'année à venir.
Et ça a déjà commencé à payer. On a déjà vu une diffusion au-delà des États-Unis. Et quand je dis au-delà des États-Unis, c'est même au-delà des Mag 7 qui font le marché américain. On a déjà vu cette diffusion. Payer, j'allais dire, dans le reste du monde, ou c'est encore à venir?
Ça reste encore à venir, mais l'Europe reste assez résiliente.
Oui.
Mine de rien, les taux montent bien, il y a des vrais sujets. Je pense que d'ailleurs, il y a dans les risques, qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais l'un des risques, c'est pas vraiment l'incertitude monétaire, comme on le disait. Les scénarios monétaires ont l'air assez tracés, on comprend à peu près bien où ça devrait aller. La consommation, ça a l'air de tenir, on voit assez bien l'amélioration en Europe, potentiellement l'amélioration en Chine également. Là où il y a plus d'incertitude, c'est l'investissement. S'il y a un endroit où je pense que ça peut faire mal, c'est justement sur l'investissement. Pourquoi? Parce que le risque politique, ça joue contre l'investissement. Et des taux réels super stratosphériques, pour reprendre l'expression, c'est aussi un facteur négatif pour l'investissement. Voilà. Ça, c'est le scénario de risque. Mais sinon, globalement, reprise nominale égale performance mieux étalée et pas une concentration de toutes les perfs sur un pays, un style, un secteur. Et 5 stocks.
D'accord. Et cet étalement des performances, il peut se faire sans justement que ces 5, 6, 7 grosses valeurs ne craquent totalement, Florian.
C'est tout l'enjeu.
D'accord, oui, c'est ça.
C'est tout l'enjeu de l'année.
C'est le grand question mark de 2025. Voilà.
Par où se fait le rattrapage? Est-ce que c'est un rattrapage par le bas ou un rattrapage par le haut? Et les deux cas ne sont pas du tout les mêmes.
Non.
Pour nous, ce scénario de reprise, c'est un rattrapage justement du bas vers le haut. Par contre, le scénario adverse, c'est plus du tout un scénario d'inflation. Pour nous, l'inflation, c'est pas du tout le risque extrême. Le risque extrême, c'est plutôt que y ait des dérapages et que ces dérapages entraînent un nouveau ralentissement, cette fois-ci inattendu. C'est-à-dire qu'on aura effectivement des courbes des taux qui n'anticiperont rien et on serait très surpris de voir le cycle se retourner par l'investissement, par exemple.
Pierre, je reprends là tout à l'heure votre description effectivement de cette normalisation, ces normalisations des courbes de taux. Est-ce que pour vous, du coup, on comprend mieux ce qui se passe? Est-ce que c'est un environnement favorable à la prise de risque là, toujours pour 2025? Et comment on prend du risque sur les marchés financiers?
C'était déjà le cas en 2024, parce que pour répondre à votre question sur est-ce que ça s'est diffusé, vous avez le high yield émergent qui a fait 15% en devises dures en 2024. Donc c'est vraiment une performance très forte. forte. C'est pas du tout le même cas. Hein,
même des indices à yield en Europe font mieux que certains indices actions en Europe. Oui, hein.
Bien sûr, mais c'est vrai que le high yield émergent, qui est quand même vraiment du vrai risque. Du vrai risque. Mais attention, c'est en devise dure. Parce que, bien sûr, en devise locale, vous avez la force du dollar qui fait que ça donne pas du tout les mêmes performances. Mais on a quand même des marchés qui sont très constructifs et des marchés risqués très constructifs. Et ce qui est assez paradoxal sur les marchés développés, c'est que tout ce qui est considéré comme pas risqué est le plus risqué et inversement. Donc, c'est vrai.
Mistigris, le risque a changé de camp, là.
Mais c'est vrai qu'on est quand même très, très constructif sur tout ce qui est les obligations risquées depuis très longtemps. On n'aime pas du tout la duration.
Le souverain,
on n'aime pas du tout. On a un scénario de repentification. On en a notamment parlé.
Une fois que les courbes se normalisent, là, c'est toujours pas intéressant pour vous d'aller être un peu plus long duration sur des taux souverains.
Alors, je pense qu'on n'est pas encore à l'équilibre. Voilà. Okay. C'est vraiment une question de...
Encore le bon prix.
Ouais. En tout cas, tant que les courbes bougent à ce point-là, et c'est vrai qu'elles ont vraiment tourné et elles continuent de tourner. Moi, j'aime pas trop cet environnement où on se dit... C'est comme un tourniquet.
C'est la lessiveuse, quoi. Oui, oui.
Un tourniquet, on peut pas savoir. Il faut être vraiment très tactique. Et nous, on n'a pas un style de gestion tactique. On est plutôt stratégique. Donc là, on attend que les marchés soient à l'équilibre. On est beaucoup plus à l'aise sur alors nous, on aime bien les marchés actions développés. Et on est surpondéré Europe. Parce qu'on, pour plein de raisons. Parce que les dynamiques ont pas été bonnes. Et parce que, encore une fois, pour peut-être clarifier ma position, c'est que toute surprise ne peut être qu'une surprise positive. Pour le moment. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, on a fait notre comité d'allocation hier, et on a eu beaucoup de mal à trouver un scénario de risque négatif, donc je suis vraiment ravi.
Sur l'Europe ?
Ah ouais, non, c'est vraiment très, très dur.
Le pire est déjà intégré, quoi, c'est-à-dire.
Oui, mais c'est vrai, c'est dur de trouver un scénario de risque négatif. Donc,
plus négatif que
ce que... l'investissement, ça peut être vraiment une bonne idée, parce qu'on a vraiment phosphoré. Et c'est vrai que l'inflation, on est raccord. On pense que les banques centrales ont fait vraiment le boulot et qu'elles sont tellement vigilantes que la reprise de l'inflation est assez peu probable. On a du mal à voir comment le scénario macroéconomique de croissance, ça pourrait être pire en Europe, parce que c'est quand même pas, même à 0,9, c'est quand même pas incroyable. En France, on n'arrête pas de baisser les prévisions de croissance, mais en même temps, on a une Union européenne qui est plutôt conciliante, donc on sait que le déficit va être plus important qu'il aurait dû être, donc on n'a quand même pas un gros haircut sur les dépenses publiques. Donc je pense que toutes sur le scénario central, c'est vrai qu'on a un scénario de risque positif qui est très important.
Ouais.
Très important.
Voilà. Bon. Rattrapage de l'Europe, hein, ça peut être effectivement un des grands thèmes de cette année 2025.
Alors, on n'est pas sous-pondéré à États-Unis, on est neutre.
D'accord.
Neutre.
Oui, oui.
Au niveau des Indes.
Sur l'Europe, qu'est-ce qui peut, je sais pas, déraper du scénario central, Michel? Et j'imagine qu'il faut dire un mot aussi de l'emploi, qui est une variable clé là aujourd'hui dans la dynamique d'inflation que surveille notamment la Banque centrale européenne. Donc, partant de l'emploi, de ce qui peut se passer sur l'emploi cette année, qu'est-ce que ça nous dit de jusqu'où la BCE pourrait aller en matière de baisse de taux, Michel?
Oui, oui. Tout à l'heure, on parlait de sous-performance de l'Europe. En fait, en termes de marché du travail, on ne peut pas parler de sous-performance de l'Europe depuis 4 ans. Ça a été une extraordinaire performance. Le taux de chômage en Europe n'a jamais été aussi bas pendant depuis les 30 Glorieuses. Et tous les autres indicateurs de tension sur le marché du travail donnent la même photo. On a un marché du travail qui est extrêmement tendu. En tout cas, le taux de chômage, il a 6,3, c'est pas le même qu'aux États-Unis, mais par rapport à ce à quoi on est habitué, c'est extrêmement, extrêmement tendu. Donc, une très bonne performance du marché du travail. Et il faut avoir en tête que l'Europe fait face à un défi démographique. La population en âge de travailler est en train de baisser. Maintenant, elle baisse. Et elle va continuer, d'après les projections de la Commission européenne, elle va baisser de 0,4% par an entre 2025 et 2030. Donc ça veut dire que si vous créez zéro emploi, le chômage
baisse.
Il baisse. Ouais. Si vous détruisez un peu d'emploi, le chômage, il baisse aussi. En zone euro, c'est ça la situation. Donc ça c'est quand même très important en termes de effectivement de perspectives salariales. La hausse des salaires va ralentir parce qu'elle est indexée sur l'inflation, l'inflation ralentit. Mais jusqu'à où ça dépend évidemment des tensions sur le marché du travail. Et là, les risques, pour moi, le risque, il est plutôt légèrement haussier que par rapport à ce qu'on anticipe, ouais. le marché anticipe. Peut-être que si la croissance est légèrement supérieure, là, j'entends un discours, mais même plus positif que celui que j'ai en tête, si c'est ça, il y aura plus d'emplois, le chômage baissera plus et les tensions salariales, elles seront plus fortes.
Parce que là, on anticipe, certains...
Vous donnez quelques ordres de grandeur. Il y a deux pays qui vont pas bien, l'Allemagne et la France. La France, la progression des salaires est faible, elle est autour de 2. Allemagne, on n'est pas loin de 2,5-3. Mais c'est parce que c'est les pays qui vont moins bien. C'est les deux pays où le taux de chômage monte. Mais les autres pays, le taux de chômage, il baisse très vite.
Ah oui, c'est ça.
D'une part, parce qu'il y a une dynamique de croissance qui est plus forte. D'autre part, parce qu'ils font face à ces défis démographiques. Et dans les autres pays, quand vous regardez la moyenne de salariale dans les autres pays, c'est 7%.
Ah, ça.
7%. Et donc, vous voyez, si...
Donc c'est les périphériques, l'Est, etc.
Il y a l'Espagne, mais même en Italie, oui. Les salaires, ils sont à 5 en Italie, à hausse des salaires.
À trop regarder la France et l'Allemagne, mais on rate le point.
Alors ça, c'est pour moi un thème de marché. En tout cas, je pense que les marchés vont se dire, oui, la France, l'Allemagne vont pas bien.
Donc l'Europe va pas bien.
Donc la BCE doit baisser les taux. Mais si la BCE, elle regarde les agrégats, il n'est pas sûr qu'ils baissent aussi vite. Alors, l'inflation totale, oui, elle va aller vers 2. Mais l'inflation sous-jacente, elle est à 2,7. L'inflation des prix des services, elle est à 4. Elle est à 4 depuis 6 mois.
Oui, ça ne bouge plus, oui.
2,7 depuis 6 mois, ça ne bouge plus. Ça, est-ce que ça va baisser un peu? Mais est-ce que ça va aller vers des niveaux compatibles avec 2% durablement cette année? Nous, c'est pas loin d'être notre scénario, mais on n'est pas du tout sûr, quoi. En particulier, si la croissance, elle est plus forte, alors là, non. Et donc, là, ce ne sera pas le cas. Ah. Et donc, du point de vue de la BCE, ça signifie que oui, le taux à 3 va pouvoir les baisser.
Peut faire encore quelques baisses de taux à chaque meeting, là.
Voilà, ouais. En janvier, en mars, on va baisser
donc
à 2,5.
Tu n'es pas le truc tout de suite, Michel.
On va passer à 2,5. Mais après, 2,5.
Ah ouais, dès 2,5, ça va être une autre histoire.
Ça va dépendre des données, mais vous voyez, là, d'un point de vue fondamental, il n'est pas évident que l'inflation sous-jacente, en mars, elle soit à 2,2, 2,3. Bon, c'est pas du tout acquis. Si elle reste à 2,7, je pense qu'ils vont se poser. Et s'il y a la croissance qui revient, et même si en Allemagne, en France, on a le taux de chômage qui monte, mais que le taux de chômage moyen de la zone euro, lui,
continue de baisser,
qu'est-ce qu'ils font?
Une BCE qui baisserait moins ses taux que prévu, parce que là, c'est. Elle est à 2,5, le marché. Alors peut-être que ça s'est un peu corrigé.
Il price 2 maintenant.
Ouais, maintenant il price 2.
Okay, donc
effectivement. Ça peut être une déception pour la partie action en zone euro, ou si la contrepartie, c'est qu'il y a plus de croissance, est-ce que c'est ce phénomène-là qui l'emporte?
Parce que tout l'enjeu, c'est la croissance des profits, croissance des profits à ne pas casser. Ce qu'on voit, nous, dans nos indicateurs macro, donc de suivi de conjoncture de nos castings, c'est que. Cette reprise européenne, elle est encore embryonnaire. On est encore au début de cette reprise européenne. Quand on regarde l'ensemble des secteurs qui composent la zone euro principalement, le risque, c'est effectivement que la BCE ne baisse pas suffisamment ses taux et vienne contrecarrer ce début de reprise. Et si reprise il n'y a pas, et si d'autres banques centrales font la même erreur, si c'est une erreur, évidemment, là, on va commencer à mettre en danger ces perspectives de profit. Ouais. On est des drogués au profit, pas des drogués à la monnaie banque centrale, il faut être vraiment très clair de ce côté-là. Et on veut voir plus de profits dans les boîtes européennes pour pouvoir y retourner et créer un engouement vis-à-vis d'actifs qui aujourd'hui sont détestés.
Mais c'est ce que vous dites.
Par les gérants de portefeuille. Donc nous, on a envie de sortir des US. Jusqu'à présent, ça a été coûteux de sortir des US en termes de performance. On entrevoit un chemin, une ligne de crête pas très facile à naviguer, où effectivement, si la BCE fait... ce qu'on imagine qu'elle va faire. Et là, nous, on irait plutôt à 2%. On serait assez content de voir 2%. On serait content de détenir des actions européennes. Et deuxième point, attention quand même, on ne peut pas vraiment aller en dessous de 2% pour l'instant. Le risque, c'est l'euro, quoi. C'est que la zone euro pourrait se mettre à importer de l'inflation de l'extérieur. Et ça, ce ne serait pas spécialement une bonne nouvelle, les prix du pétrole.
C'est encore un facteur important, la faiblesse de la devise euro et le lien avec l'inflation importée.
Pas autant que pour la Grande-Bretagne.
Ouais.
C'est une évidence. La zone euro est une grande économie intégrée, soit. Mais voilà, si on a un change qui est pas en dessous de la parité, ça va commencer à devenir difficile. C'est pas notre scénario. On verrait plutôt un rebond de l'euro, justement, vu tout ce qui est anticipé en termes de scénario monétaire aujourd'hui.
Ouais. Sur l'échange, effectivement, est-ce qu'il faut se préparer à beaucoup de mouvements de change ? On a très peu parlé de Donald Trump, passage. Mais non, mais c'est très bien. On s'est focalisé sur autre chose que Donald Trump. Mais on sait quand même qu'il est là, qu'il est dans la pièce et qu'il va arriver. Mais le dollar fort, on sait que, bon, à un moment, ça peut peser non seulement sur l'activité aux États-Unis, enfin sur les entreprises américaines, mais ça peut être un problème pour le reste du monde aussi. Pierre.
Oui, alors c'est sûr que nous, on est quand même assez dépendant des matières premières. Donc, comme tout se passe en dollars, c'est là où on peut avoir de l'inflation importée. Mais pour reprendre sur la BCE, en fait, on peut très bien imaginer qu'elle vise un taux réel à zéro. Et je pense qu'elle sera finalement assez pragmatique. Parce que la BCE, elle est quand même assez... elle est toujours en retard, mais elle est quand même assez pragmatique. Et en fait, si on parlait de taux réel au début de l'émission, on peut très bien se dire que finalement, la BCE... elle pilotera le taux réel de telle manière qu'il soit complètement plat et que il y ait une préservation des profits, parce que elle a pas le mandat sur le chômage, mais elle voit quand même que 50% du PIB est un peu dans un marasme entre l'Allemagne et la France. Donc je pense qu'elle sera finalement suffisamment pragmatique.
Oui, s'il n'y a pas que l'Allemagne et la France qui comptent, la France et l'Allemagne, ça peut toujours compter, quoi.
Oui, mais oui, parce que finalement c'est un jeu d'équilibriste où ils sont assez...
On voit, oui, mais c'est le jeu des gouverneurs. Voilà. François Villeroy de Galhau affirme qu'il faut aller à 2% d'ici cet été, que c'est l'objectif, et voilà.
Voilà, mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que, justement, la grande économie intégrée fonctionne mieux ensemble. Donc après, on voit que politiquement, il peut y avoir des francs-tireurs. Je pense à l'Italie où, sans parler de Donald Trump, on voit qu'il y a des photos qui circulent avec Giorgia Meloni, et on peut penser que il y a des gens qui veulent y aller tout seul. Donc c'est vrai que la BCE, comme entité stabilisatrice, c'est plutôt pas mal. Sur le dollar fort, malheureusement, le marché, il est un peu... Alors, encore une fois, je pense qu'on est aussi un peu intelligent l'un que l'autre. C'est que la différence de différentiel de taux fait qu'il y a un soutien pour le dollar qui est, pour l'instant, manifeste. Mmh. Et si on se dit que le dollar, c'est l'equity du pays États-Unis, bah, c'est vrai qu'on a quand même une force économique qui est... redoutable. Donc je ne sais pas comment faire baisser le dollar avec une économie qui vole de record en record et qui surprend tout le temps à la hausse, et avec un président, en tout cas un ancien président qui était quand même assez pro-business et un nouveau président qui est encore plus pro-business. Donc c'est vrai que là c'est très difficile pour les autres. Moi je dirais que la BCE sera assez pragmatique et qu'elle n'entamera pas toute reprise économique, elle va plutôt viser...
Elle a été capable, le 6 juin 2024, d'attaquer la première, son cycle de baisse de taux, avant la Réserve fédérale américaine.
C'est ça, mais elle a été très très soulagée par le fait que la Réserve fédérale américaine lui emboîte le...
Avec 50 points de base délivrés en septembre. Vous évoquiez les émergents, dans l'idée que ça vous intéressait pour 2025, l'idée de cet étalement, comme vous dites, des performances, Florian, les émergents, ça veut dire la Chine aussi ?
Oui, ça veut dire que on a une vision assez positive.
Ouais. C'est le moment d'avoir une vue plus constructive sur la Chine.
Pour les mêmes raisons qu'on peut avoir une vue constructive sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouvelles qui sont aujourd'hui pressées. À la différence de l'Europe, les taux longs sont en train de baisser. C'est plutôt quelque chose qui va venir stimuler l'économie. On n'a encore pas vu l'intégralité de la stimulation fiscale qui va être déployable dans la zone. Et on a beaucoup de pessimisme dans le prix des actifs. Donc c'est le type de configuration dans lequel on peut avoir... quand on a cette impression qu'on ne peut pas avoir de plus mauvais scénario, de scénario plus adverse, c'est le moment où on peut avoir justement un squeeze dans le marché, des surprises. Oui. Exactement. On a cru le voir lors de l'annonce du premier stimulus. Bon, on imagine, nous, en tout cas, que voilà, nos gérants actions qui ont les pieds en Chine, nous en font part à chaque meeting qu'on a avec eux. Ils voient de l'amélioration, ils ont une position plutôt positive, ils adorent la technologie chinoise, et il y a des choses qui sont extrêmement novatrices, qui sont faites chez eux, des entreprises qui sont de pointe, mais qui ne sont pas du tout évaluées au prix des comparables américaines. Donc oui, on aime bien ça. Et puis côté crédit, c'est aussi assez chouette. Vous avez des attentes de rendement élevées, des caries élevées. C'est des environnements... ça a fait très bien cette année, mais c'était plutôt un phénomène de reprise. Là, on va commencer à rentrer en vitesse de croisière chez les émergents. Cette vitesse de croisière, elle est assez attractive aussi longtemps que le dollar n'est pas trop fort et ne vient pas perturber ce jeu-là.
On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard Odier IM. Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB.